Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cela fait 10 jours de grève au total en 3 semaines à la SNCF depuis le début du mouvement des syndicats de cheminots contre le projet gouvernemental de réforme ferroviaire. Et ce n'est pas terminé, cette grève en pointillé est censée durer jusqu'à la fin juin si nécessaire. Ajoutez à cela des mécontentements chez les fonctionnaires, les personnels des maisons de retraite, les retraités et les étudiants. Même si le mouvement n'est pas massif, il ne s'essouffle pas franchement. L'exécutif affirme qu'il va aller jusqu'au bout et continuer à réformer au même rythme. La France est-elle en train de s'enfoncer dans la chienlit sans espoir de sortie? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir. Bernard Vivier, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Et par téléphone, Dominique Andolfato, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste du mouvement syndical. C'est une question que j'ai posée de manière un peu provocante, mais chacun aura saisi la référence au général de Gaulle en mai 68, il y a donc bientôt 50 ans. D'abord, votre analyse, messieurs, la chienlit, le bazar, ou appelez ça comme vous voulez, c'est quoi et est-ce qu'on y est ? Bernard Vivier.
Non, nous ne sommes pas du tout dans une période de contestation radicale de la société, de chienlit, pour reprendre l'expression du général de Gaulle que vous venez de citer. Nous avons davantage affaire à des mouvements catégoriels et à des inquiétudes d'une génération pour s'insérer dans la vie professionnelle. On pense aux mouvements lycéens, étudiants, et non pas des mouvements qui viendraient contester radicalement la société et exprimer un refus d'insertion.
Alors, Dominique Andolfato, vous partagez cette analyse ?
Oui, je partage. J'ajouterais que certains sociologues parleraient d'un mouvement social en peau de léopard. Et encore, ce léopard aurait assez peu de taches sur sa peau, en fait. C'est quand même un mouvement qui est très éclaté, très, très émietté, même si, à travers ce que la CGT appelle la convergence des luttes, certains animateurs, certains militants de ce mouvement souhaitent tout de même parvenir à une certaine rupture par rapport à la société libérale.
Alors, je me permets d'insister. Alors, on a compris que le mouvement n'était pas généralisé et massif, mais Bernard Vivier, ça fait un mois et il commence quand même à durer, ce mouvement, un petit peu, non ?
Oui, ou pour reprendre l'expression qui vient d'être dite, pour la série de mouvements continue leur chemin, mais c'est très différent. Qu'est-ce qui peut regrouper des revendications catégorielles de pilotes d'avions, très préoccupés par leur augmentation de salaire, des lycéens, des cheminots qui sont embarqués dans une réforme considérable de structure, de statut de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, de statut social ou de convention collective des prochains agents? Nous avons un phénomène très hétéroclite, mais certains de ces conflits sont très médiatiques. Les catégories en grève peuvent bloquer le transport. Et on le sait aujourd'hui, si la conflictualité au travail diminue d'année en année, elle reste relativement significative dans le monde des transports, parce que peu de personnes peuvent bloquer tout le monde.
Alors, Dominique Andolfato, on a bien compris que depuis le début de la grève à la SNCF notamment, on est dans une bataille de communication pour gagner l'opinion entre le gouvernement et l'intersyndicale. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où de vraies négociations doivent s'engager? Ça fait quand même 3 semaines que ça dure et qu'on a été prévenu depuis un moment.
Alors, c'est un peu paradoxal parce que pour cette réforme, le gouvernement s'y est pris de façon totalement différente de ce qu'il a fait à l'automne dernier avec les ordonnances Macron. À l'automne dernier, il avait engagé très tôt des négociations bilatérales avec les syndicats. Il était parvenu à s'entendre, notamment avec Force ouvrière, plus secondairement avec la CFDT, etc. Il avait réussi à convaincre du bien fondé, au moins partiellement, de sa réforme un certain nombre d'interlocuteurs syndicaux. Et cette fois-ci, et donc finalement, cette réforme à l'automne dernier s'est faite assez facilement, alors qu'elle était quand même très très ambitieuse et très générale. Elle a réformé profondément le code du travail. Et cette fois-ci, il s'y est pris très très différemment. Il n'a pas voulu négocier au départ. Il s'y est pris un peu à la hussarde, d'autant plus que la réforme n'était pas prévue dans les promesses de Macron. Et en fait, Du coup, il y a ce mouvement qui va éclater. Ils pensaient sans doute que passer, faire cette réforme soudainement, passer à la hussarde, peut-être que ça couperait de l'herbe sous le pied en quelque sorte des militants syndicaux. Et en fait, c'est pas ce qui est arrivé. Les syndicalistes, les cheminots vont descendre dans la rue, vont essayer de développer une forme relativement inédite de grève. Et c'est après l'annonce de la réforme, et alors même que celle-ci est votée, qui annonce des négociations, des concertations. Donc, je veux dire, il y a une certaine confusion dans le recours à la concertation. Négociations, elles interviennent trop tard, donc elles sont privées un peu de leur force, si tant est qu'elles devaient avoir une force.
Bernard Vivier, vous êtes d'accord avec cette analyse? Le gouvernement s'est trompé dans son analyse, justement, de cette réforme?
Alors, j'approuve totalement ce que dit Dominique Andolfato, mais je ne pense pas qu'il se soit forcément trompé. À l'automne dernier, il a réussi, avec une méthode qui alliait à la fois la détermination et puis de nombreuses concertations, consultations des syndicats et du patronat à faire passer des réformes très importantes qui n'avaient pas pu se passer dans les années précédentes. Il faut dire aussi que les échecs passés nourrissent, parfois préparent les réformes du moment.
C'est comme d'arrêter de fumer, quelque part.
Exactement. Mais nous pouvons presque nous poser la question de savoir si, fort du succès des ordonnances sur la réforme du droit du travail, le gouvernement n'a pas voulu un peu provoquer le futur, voire même croiser le fer avec la CGT sur un de ses bastions, qui est la SNCF, les cheminots, pour se dire, si j'arrive à faire plier la CGT, eh bien j'ai 4 ans de libre devant moi pour faire la réforme des retraites ou d'autres réformes très importantes. Y aurait-il une sorte de thatcherisation d'Emmanuel Macron? On se souvient, la première ministre de Grande-Bretagne,
avec les mineurs notamment,
avait croisé le fer très dur avec les mineurs et avait fait plier les mineurs. Bien, là, on est un peu dans cette configuration avec une méthode à l'envers, puisqu'effectivement, aujourd'hui, Dominique Andolfato vient de le rappeler, la grève n'a pas été courte et dure, elle s'éternise avec une stratégie, une tactique syndicale qui est inédite, des grèves à répétition, finalement une sorte de stratégie du faible au fort. Les syndicats sont faibles, mais ils arrivent à tenir dans la durée face au gouvernement, et un gouvernement aujourd'hui qui est un peu embarrassé. Il y a une porte de sortie, c'est la négociation de la convention collective.
Alors, Dominique Andolfato, vous en parliez, l'offre de rencontre bilatérale faite par le Premier ministre, est-ce que c'est une ouverture? On rappelle quand même qu'il a proposé ça en écrivant au syndicat hier pour le 7 mai, c'est-à-dire que finalement, le Premier ministre montre qu'il a 13 jours devant lui avant de rencontrer les syndicats, finalement, il n'est pas si pressé que ça.
Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bernard Vivier. Je pense effectivement que, si je reviens un tout petit peu en arrière, que le gouvernement essaye en quelque sorte, je dirais, un peu de surfer sur son succès de l'automne dernier et a pensé que cette réforme serait plus facile à faire. Donc, c'est pourquoi il n'a pas négocié. Donc, le mouvement a éclaté, etc. Je pense que maintenant, on est rentré dans une espèce de deuxième phase du mouvement. Les syndicats, il faut qu'ils s'efforcent de faire durer le mouvement, pense-t-il, tant que le gouvernement n'a pas cédé. Et le gouvernement a besoin un peu de reprendre les choses plus directement en main. Et j'ai l'impression qu'il cherche à renouer d'une part avec la méthode qu'il avait utilisée à l'automne dernier, c'est-à-dire des négociations bilatérales avec les interlocuteurs syndicaux pour avancer dans la réforme, première chose. Mais vous aurez bien noté que ces négociations qui devraient reprendre, c'est pas avant la fin de la semaine prochaine, c'est pas avant le 7 mai. Et donc je pense également que le gouvernement, tout en renouant avec cette méthode qui a assuré son succès l'automne dernier, il cherche également un peu à jouer la montre, à jouer le temps, parce qu'on voit quand même bien qu'au fur et à mesure des différents rounds de grève, là il y en a eu 5, le nombre de grévistes diminue, même s'il reste encore loin, il est encore loin d'être négligeable, mais petit à petit ça s'érode, donc peut-être qu'il se dit encore 2 ou 3 rounds et on va passer en dessous de 10% des grévistes de la SNCF, il peut faire ce pari. Et deuxième chose, il essaye de réactiver la contradiction entre les syndicats contestataires. Hein, il explique que la CGT Sud sont pour une réforme collectiviste, une réforme qui voudrait changer toute la société, une réforme qui va bien au-delà du simple enjeu et des défis qui sont posés à la SNCF. Et par ailleurs, il y a la CFDT et l'UNSA qui, eux, sont des interlocuteurs qui sont attachés à des revendications plus sociales. Ils cherchent avant tout, ils sont pas hostiles à la réforme, mais veulent que soit préservé un certain cadre social, etc. Donc, Il y a une certaine tactique de gouvernement, on renoue avec la négociation, mais pas tout de suite, et on essaie de réactiver la division syndicale.
Alors la réaction des syndicats, on va reparler de l'unité syndicale, la réaction des syndicats à cette offre de discussion, on parle pas encore de négociation du côté du gouvernement, hein, c'est que c'est une victoire de l'unité syndicale, ça c'est la première réaction. Ils nous annoncent une journée de mobilisation, de manifestation, de rassemblement le 3 mai, et une journée sans cheminots le 14, bref, ils mettent quand même un petit peu, ils essayent de pousser ce qu'ils considèrent comme un avantage, ils mettent la pression, Bernard Vivier.
Oui, ils mettent la pression, mais pas forcément tous ensemble pour continuer à mettre le gouvernement en danger sur le plan politique. Le point de sortie de cette affaire, c'est la construction d'une convention collective qui va s'appliquer aux futurs embauchés à la SNCF. C'est un point très important. Le gouvernement vient de faire adopter par le Parlement le statut de l'entreprise SNCF.
En première lecture à l'Assemblée.
C'est passé, mais le point chaud, le point sensible, c'est quelles garanties collectives vont pouvoir être données aux cheminots. Et donc, c'est la négociation de la convention collective.
Et là, c'est suffisamment flou, Dominique Andolfato, pour pouvoir permettre, pour pouvoir laisser un espace à la négociation? Ou est-ce que, on est dans ce que dit le gouvernement depuis le début? Parce que le message, quand même, depuis le début de cette affaire, c'est comme ça et c'est pas autrement.
Alors, le gouvernement ne reviendra pas en arrière, je pense, sur la réforme, le nouveau statut de l'entreprise, l'ouverture à la concurrence, tout ça, c'est à mon avis, c'est acquis et définitif. Maintenant, effectivement, il y a deux sujets, je pense, sur lesquels, je ne sais pas s'il faut parler de négociation, de concertation, de discussion, enfin, il y a un certain flou de ces termes en France, dans notre démocratie sociale, mais en fait, les deux objets qui vont faire l'objet de discussion, c'est effectivement, quel sera le... On ne parle plus de statut, mais la convention collective, effectivement, des futurs embauchés de la SNCF, et puis comment également, sans doute, vont évoluer les agents qui sont au statut, parce que ceux qui le sont vont y rester, et je pense qu'ils veulent que leur carrière continue à se développer, etc. Donc on va discuter de ces deux sujets. Et il y en a un troisième également, c'est également la question de la dette de la SNCF. Qui va sans doute faire l'objet des discussions, les 50 milliards et un peu plus, que l'État promet plus ou moins de reprendre partiellement ou en totalité, etc. Donc voilà, les deux sujets, c'est effectivement le statut des personnels, ceux qui seront en convention collective et ceux qui restent au statut, et par ailleurs la question de la dette de la SNCF, et sans doute que des négociations vont s'engager, ou en tous les cas des discussions bilatérales, c'est-à-dire en tête-à-tête entre le gouvernement et chaque syndicat tour à tour, comme à l'automne, on renoue un peu avec la méthode qu'on a utilisée lors des ordonnances qu'on a appelées Pénicaud-Macron. Donc cela va s'engager à partir du 7 mai en principe.
Merci Bernard Vivier. Le but, là, ça paraît assez clair, en recevant les syndicats en réunion bilatérale, c'est de briser l'unité syndicale, de dire à tous ce qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce qu'elle vous semble, cette unité syndicale, toujours aussi forte qu'au début du mouvement? Est-ce qu'elle est réelle d'abord?
Non, elle n'est pas réelle, et dès le début du mouvement, il y avait deux blocs syndicaux, la CGT et Sud, dans une logique d'affrontement, et puis l'UNSA et la CFDT, ça fait un deuxième bloc à peu près équivalent en audience, qui est plus porté à la négociation. Dans cette affaire-là, on le voit bien, le gouvernement ne peut pas reculer, parce que s'il recule sur les points essentiels de sa réforme, c'est-à-dire le statut de l'entreprise et l'organisation d'une entreprise apte à être concurrentielle sur le marché européen qui s'ouvre, il fera plus rien pendant 4 ans. Et la CGT et Sud ne doivent pas être vaincus, parce que ce sont des organisations qui ont une capacité forte à l'intérieur de l'entreprise et puis dans le pays. Et si ces organisations sont humiliées, le gouvernement finalement se retrouvera avec des mouvements davantage incontrôlés, ou des mouvements incontrôlés. Des mouvements syndicalisme, ce sont des structures fortes, des structures qui savent gérer les tensions.
Et encadrer les tensions.
L'effacement des corps intermédiaires que sont les syndicats, le patronat, le mouvement associatif, c'est toujours négatif pour une société qui sait respirer.
Alors, justement, je vais rebondir là-dessus, Dominique Andolfato, quelle est l'influence des élections syndicales à la SNCF à la rentrée sur ce mouvement? Il y a quand même ça en toile de fond, hein.
Alors oui, vous avez tout à fait raison. On avait d'ailleurs vu au tout début du mouvement, par exemple, la CFDT avait dit, Laurent Berger avait dit qu'il ne faisait pas du statut un tabou. Donc, sous-entendu, il était ouvert à des discussions sur le statut des cheminots. On n'entend plus cet argument aujourd'hui, parce que sans doute qu'on lui a rappelé qu'il y avait des élections à la SNCF prochainement, et que tout le monde, enfin, il y a l'idée que compte tenu de cette échéance, tout le monde doit être sur une position extrêmement offensive. Il y a une espèce de concurrence. C'est un peu l'effet pervers de notre démocratie sociale que ces élections finalement. Il y a ces élections et donc tout le monde est persuadé qu'il faut tenir des propos très très offensifs. Il faut camper sur le statut, etc. Tout le monde s'observe et tout le monde craint que à formuler des revendications trop réformistes ou à dire que finalement le statut n'est pas un tabou. Tout le monde craint de perdre éventuellement les élections. Et donc, c'est à mon avis, cette échéance, c'est la crainte de perdre les élections et surtout de perdre les ressources qui s'attachent aux élections. Parce que dès lors que vous êtes représentatif dans une entreprise, notamment la SNCF, vous obtenez des postes de permanents syndicaux, vous obtenez diverses ressources, etc. Le rapporteur de la réforme a évoqué à plusieurs reprises que la SNCF, il y avait à peu près 2500 syndicalistes à temps plein. Donc c'est quand même c'est une vraie entreprise dans l'entreprise, en quelque sorte. Et donc il y a tous ces enjeux qui sont derrière et donc on ne peut pas camper sur des positions trop conciliantes avec le gouvernement, admettre que le statut puisse être finalement discuté, voire abandonné en échange d'une convention collective. Oui. C'est pas possible compte tenu de cette échéance. Donc effectivement, les élections de l'automne pèsent sur ce conflit et font que il y a une espèce de front syndical qui s'est constitué. Mais ce front syndical, en fait, il existe à la SNCF, mais il n'existe pas ailleurs. Par exemple, le 1er mai qui s'annonce entre les confédérations s'annonce des unis.
Comme d'habitude, Bernard Vivier, vous vouliez réagir sur ce que vous venez d'entendre.
Oui, nous avons des élections à la SNCF qui vont se tenir vraisemblablement le 15 novembre. La CGT en 20 ans a perdu 10 points. Et aujourd'hui, CGT plus Sud, ça fait 52% des voix. Et de l'autre côté, UNSA et CFDT, qui sont assez proches dans leur vision des choses, aspirent à dépasser les 50%. 50% dans une entreprise en France, c'est important. C'est le seuil à partir duquel des organisations syndicales sont en capacité de signer ou de ne pas signer des accords. Donc c'est important. L'avenir de la SNCF, il va passer par la négociation. Et nous savons pas si aujourd'hui ce sera une période de floraison de la négociation, au contraire de glaciation conventionnelle.
Autre élection, celle de la présidence du MEDEF pour succéder à Pierre Gattaz. Est-ce que cela influe sur l'attitude du patronat dans ce conflit, dans les commentaires qu'il peut y avoir dans ce conflit, Dominique Andolfato?
Écoutez, personnellement, je n'ai pas suivi l'élection du patronat, mais je ne pense pas que l'élection qui concerne le MEDEF ait une influence sur ce qui se passe à la SNCF. J'ai vraiment l'impression, enfin plus qu'une impression, c'est une affaire qui est propre à autrefois on aurait dit c'est l'État patron là qui est en première ligne, et c'est pas tellement le MEDEF adopte sur une position plus protestataire. Il va dénoncer des services publics qui n'arrivent pas à assurer leur mission, etc. Mais il n'est pas directement impliqué dans la grève de la SNCF, et je ne pense pas que ça pèse sur l'élection du futur président ou présidente du MEDEF.
Et quelque part, est-ce que le gouvernement, Bernard Vivier, réduit le rôle des partenaires sociaux? Est-ce qu'il se méfie du paritarisme? On en voit l'exemple dans la réforme de l'assurance chômage.
Oui, aujourd'hui, nous avons une grande inquiétude à avoir sur le regard que peut porter la puissance politique sur le rôle des acteurs. Le marché du travail, c'est d'abord le patronat et les syndicats. Les négociations, c'est le patronat et les syndicats. Mais en France, nous avons une vieille tradition étatique qui fait que la loi donne très très souvent le « là » par rapport aux accords, par rapport aux conventions collectives. Le paritarisme, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion par le patronat et les syndicats d'institutions nées de la négociation collective. L'assurance chômage, les retraites complémentaires, le logement, un certain nombre d'avancées sociales, d'institutions. Et là, nous sommes sur la pente d'une étatisation de ces institutions.
Merci Bernard Vivier, merci à vous également Dominique Andolfato d'avoir participé à cette émission qui se termine déjà, ça va très vite comme d'habitude. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Tiffany Menta. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr ainsi que sur les plateformes mobiles avec notamment l'application RFI Pure Radio rubrique magazine. Rejoignez également le débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.